Voilà, donc on continue l'étude de la Genèse. Et donc on va regarder les chapitres 32 à 35 que l'on avait un peu intitulé « Les soucis familiaux ». Et puis en regardant un peu le texte de près, je vais aussi le sous-titrer autrement avec les difficultés de changer et de voir changer les autres. Et... Voilà, une image de Delacroix qui est un des tableau de Delacroix qui est un des principaux moments de ce texte-là, puisque c'est le moment où Jacob lutte avec l'ange. Et je retiendrai un verset. Ça marche pas. C'est mieux comme ça. Un verset qui n'est pas dans le texte qu'on a lu, mais qui était dans la portion précédente. Où Jacob reçoit de l'Éternel cette parole, je serai avec toi, hein, qu'on a déjà vu dans la section précédente. Alors, ça sera un peu long de tout lire, hein, donc vous me permettrez de faire juste un résumé rapide, pour que ce soit trop long, puisque de ne pas lire les quatre chapitres, mais de juste faire un petit résumé. Le premier chapitre de ce texte, c'est donc Genèse 32, c'est la rencontre avec Ésaü, et Jacob qui craint la vengeance de son frère, hein, qu'il avait trompé pour obtenir son droit d'aînesse, il prépare sa rencontre avec lui. Et avant d'arriver à Ésaü, Jacob passe la nuit à lutter avec un homme mystérieux, puisqu'il lutte avec un homme dans le texte, et qui se révèle être Dieu lui-même. Lors de cette lutte, hein, Jacob est béni et est renommé pour la première fois Israël. Ce qui signifie celui qui a lutté avec Dieu. Le chapitre suivant, dans le chapitre 33, on a la réconciliation entre Jacob et Ésaü. Hein, donc Jacob finit par rencontrer Ésaü après quand même beaucoup de préparation et puis d'hésitation. Et il craint le pire, bien sûr, Ésaü. Et Ésaü accueille chaleureusement Jacob puisqu'il le prend dans ses bras, il l'embrasse. Et c'est une réconciliation, c'est un moment spécial de grâce et de pardon dans cette relation familiale qui est compliquée. Dans le chapitre 34, on a la tragédie de Sichem, où la fille de Jacob, Dina, est violée par un homme nommé Sichem, et les fils de Jacob, Siméon et Lévi, hein, qui sont les deux et trois dans l'ordre d'aînesse de Jacob, qui sont indignés par cet acte, trompent les habitants de la ville, en leur faisant croire qu'ils accepteront une alliance, hein, si tous les hommes se font circoncire. Et puis, pendant qu'ils sont affaiblis par la circoncision, Siméon et Lévi attaquent la ville et la pillent et tuent tous les mâles. Et puis, en chapitre 35, on a le retour à Bethel. Dieu ordonne à Jacob de retourner à Bethel, là où il avait eu la vision de l'échelle, hein, qu'on a vu aussi dans les sections précédentes. Et sur le chemin, Rachel meurt en accouchant de Benjamin. Et Jacob construit un autel à Bethel et Dieu renouvelle son alliance avec lui. Ruben commet adultère avec la concubine de Jacob, son père, et Jacob retrouve Isaac, son père, qui meurt, et les deux frères se retrouvent pour enterrer Isaac. Donc voilà, excusez-moi de faire un petit raccourci, ce sont des chapitres que vous avez certainement lus souvent, et de les lire in extenso prendrait quand même beaucoup de temps. Alors je vous propose une présentation où on va regarder d'abord trois axes qui structurent ce texte. Trois axes un peu avec des étapes qui structurent un peu ce texte. Ensuite, regardez quelque chose sur les relations difficiles, voire impossibles, entre Jacob et son frère. Un mot sur les relations père-fils, que l'on voit notamment à deux moments dans ce texte. Je ferai une remarque sur la temporalité, et puis on conclura avec l'espérance de la réunion. Donc première phase, trois axes qui structurent ce texte. D'abord sur l'évolution de la compréhension de la promesse de Dieu, ensuite sur les rencontres avec Dieu, et ensuite les désobéissances du Père et leurs conséquences. Première, sur l'évolution de la compréhension de la promesse de Dieu. Vous vous souvenez, le verset que j'ai mis en exergue au début, l'Éternel dit à Jacob, « Je serai avec toi. » « Je serai avec toi. » C'est une promesse que Dieu fait, mais il ne dit pas « Tout va être facile. » Tout va être simple et tout va te réussir. C'est pas ça qu'il dit. Et je pense qu'à nous tous, on peut entendre cette parole, « Je serai avec toi ». Mais ça ne veut pas dire que c'est un long fleuve tranquille et que tout va être super. Et ce n'est pas non plus une promesse de croissance et d'abondance absolument. C'est « je serai avec toi », c'est l'important. Et là, on a la compréhension qui va évoluer pour Jacob. Au chapitre 31, donc il reçoit cette... il reçoit au chapitre 32, verset 9, après avoir reçu la promesse au chapitre 31, « je serai avec toi », il dit « je te ferai ». Il dit à Dieu, « mais tu m'as dit que tu me ferais du bien. Tu m'as dit, je te ferai du bien. » Ce n'est pas ça que Dieu lui avait dit. Il lui avait dit, « je serai avec toi. » Pas « je te ferai du bien. » Parce qu'en plus, le bien qu'attendait Jacob, c'était la délivrance vis-à-vis d'Ésaü et le fait que ça s'aplanisse et qu'il soit complètement pardonné. Mais Dieu ne lui avait pas dit ça. Et puis au chapitre 33, verset 11, on a encore un pas de plus. Devant Ésaü, Jacob reconnaît « Dieu a usé de grâce envers moi ». Alors là, les choses évoluent. « Dieu a usé de grâce envers moi ». Et puis, il faut quand même attendre le chapitre 35 au verset 3 pour avoir cette déclaration de Jacob qui dit « Dieu a été avec moi ». Et là, il comprend ce que Dieu lui avait dit et il le fait pleinement l'acquis de « je serai avec toi ». « Dieu a été avec moi ». Et on voit l'évolution de Jacob, donc vers cette compréhension de ce que Dieu lui avait dit. Alors bien sûr, il y a eu des étapes avant, il y a eu des choses qui se sont passées, il y a eu des choses difficiles, des choses plus heureuses. Mais là, il se retourne, et est-ce que c'est chouette dans nos vies de pouvoir nous retourner et de voir la bonté de Dieu sur notre chemin, de voir quand Dieu a été avec nous, vraiment. Et de voir les bontés. Donc, compter les bontés de Dieu et voir comment il était avec nous sur le chemin. Et en Matthieu 28:20, on a cette promesse, hein, où le Seigneur dit « Voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. » On a cette promesse aussi pour nous, cette promesse qui a été faite par Dieu à Jacob « Je serai avec toi. » Le Seigneur la réitère à la fin de l'évangile de Matthieu « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. » On peut faire cet acquis pour nous-mêmes. Deuxième axe un peu structurel, c'est les rencontres avec Dieu. Alors, on a plusieurs types d'ordres de Dieu dans ces chapitres. On a les ordres d'aller, hein, de se mettre en mouvement. On avait eu ça au chapitre 31, verset 3, hein, aussi, quand c'est donné à Jacob. Et puis on a à nouveau au chapitre 35, « Va à Bethel ». Et puis on a des encouragements un peu passifs de Dieu. Et le premier, c'est celui que les anges de Dieu le rencontrèrent. Au début du chapitre 32, Jacob, il rencontre les anges. Alors on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, ça. Et puis une rencontre, il ne semble pas qu'il y ait d'échange particulier. Et quelle est la conséquence? C'est que Jacob, il a peur, en fait. Il craint. Il se dit, oula, qu'est-ce que c'est ça? C'est très inquiétant, ça l'inquiète beaucoup. Alors que moi, je le vois comme Dieu qui vient et qui lui dit, tu vas avoir un moment compliqué et je te montre l'armée des cieux. Je te montre qui est autour de toi, qui est avec toi. Donc, il rencontre l'armée des anges. Et pourtant, ça va l'inquiéter. Il ne prend pas ça comme étant rassurant, ça l'inquiète. Alors, on a rarement le nous, hein, peut-être que des personnes, ça peut arriver que Dieu montre combien nous sommes protégés, combien nous sommes entourés. Et puis on a des histoires, hein, de missionnaires qui étaient dans des difficultés, et puis des personnes qui sont venues les attaquer, qui ont vu des anges autour d'eux. On a ces histoires-là, hein, qu'on a entendues. Mais nous sommes entourés aussi de la protection de Dieu. Alors on n'a pas les yeux physiquement pour les voir, souvent, mais si on fait un peu attention à ce qui se passe autour, à des réactions, à des choses qui avancent, alors on peut voir qu'on est entouré de la protection de Dieu, souvent. Et là, on a Dieu qui vient rencontrer, après cette vision, en quelque sorte, où Jacob a vu l'armée des anges au début du chapitre 32, on a Dieu qui vient le voir pour lutter avec lui. Alors, beaucoup de choses autour de cet épisode de lutter avec Dieu, il y a beaucoup de symbolique aussi. Il est à un moment où il est seul, il est en train de passer un guet, donc il y a des symboliques aussi sur sa lutte avec lui-même, Évidemment, on pourrait voir des choses, mais il lutte toute la nuit, comme si c'est une période où il n'y voyait pas bien. Et donc, il lutte dans ce qu'il est et dans ce qu'il va faire, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne se pardonne pas, dans la nuit dans laquelle il est, de son péché et de son non-pardon à lui-même. Et donc, il y a une lutte avec Dieu. Et à la fin, Dieu lui donne cet envoi en le nommant vainqueur de Dieu, en changeant son nom et il est vainqueur de Dieu. Alors, c'est étonnant, ça. Mais quelle puissance magnifique qu'il va et il prend ce titre-là. Et pourtant, il ne va pas en faire la quille de ça. Il ne va pas se considérer vainqueur. Et Dieu dit à Jacob, au chapitre 35, d'aller à Bethel. Et il est obligé, Dieu, de réapparaître encore à Jacob et de renouveler son nom Israël. Une deuxième fois, parce que Jacob l'a pas bien pris en compte. Jacob, la première fois, il n'a pas pris la pleine mesure de ce que ça voulait dire d'être vainqueur. Et de pouvoir aller avec la force que Dieu lui donne et qu'il lui a montré comme étant vainqueur de Dieu. Alors pour nous, la parole nous dit à tous, hein, tout croyant, que nous sommes plus que vainqueurs. Jacob a été vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs encore. Et en Romains 8, 37. Et encore, on a aussi ce passage dans l'Épître aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et aussi dans la première Épître de Jean, on a car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Parce que c'est ça, à la finale, vainqueur. Vainqueur de Dieu, mais vainqueur de quoi? Sur quoi? Vainqueur sur le monde. Vainqueur sur nos convoitises, vainqueur sur nos envies, vainqueur sur nos difficultés, notre faiblesse, vainqueur sur nos contraintes, nos faiblesses par lesquelles nous pouvons entrer en tentation. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et Dieu répète ses encouragements à Jacob. Il est obligé de lui dire deux fois. Il est obligé aussi parfois de nous redire les choses souvent. Il le dit aussi à travers des épreuves. Et Jacob va avoir des moments difficiles. Mais il est aussi obligé de nous le redire plusieurs fois à travers des épreuves pour nous montrer qu'il est là. Et quand nous avons des moments difficiles, c'est Dieu qui répète. Dieu qui veut nous montrer qu'il est là encore. Voilà, notre troisième axe structurel de ce texte, c'est les désobéissances du Père et leurs conséquences. Première désobéissance, l'Éternel avait dit à Jacob, va à Bethel, retourne dans ta parenté. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe à Sichem. Et non seulement il s'installe, il achète un champ, il achète une part de terrain. Il s'installe là où Dieu ne lui avait pas dit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le viol de Dina. Et la tuerie qui va en suivre, on reviendra dessus, en représailles par les fils de Jacob. Nos manquements ont parfois des conséquences. Et quand bien même il est vainqueur de Dieu, quand bien même il est bénéficiaire dans le texte, ça deux fois, d'une bénédiction extraordinaire, d'être une multitude de tout, qui va être grande, qui va porter des rois, quand bien même ces conséquences de propres volontés vont être graves. Nous pouvons avoir des expériences extraordinaires avec Dieu, des moments où nous voyons la main de Dieu agir et parfois agir sur notre sollicitation. Attention à ne pas en prendre la grosse tête, on va dire. Parce qu'on peut aussi chuter derrière lamentablement et avoir des conséquences qui peuvent être graves. À chaque pas, nous avons besoin de Dieu. Quel que soit notre état et les expériences magnifiques que Dieu nous a permis de vivre, à chaque pas, nous avons besoin d'être proches de Dieu. Il y a des événements qui sont subis. Diana, elle subit Dina, pardon. Excusez-moi. Dina subit cet événement. Hein. Elle ne fait rien pour être dans cette situation, si ce n'est qu'elle va se balader. Et ça entraîne une réaction de la part de ses frères qui est, on verra, extrêmement forte. Et je dirai un mot là-dessus en relation avec le père, la relation père-fils quant à cette réaction. Et puis il y a des événements qui sont créés par nos propres comportements. Deuxième événement, pareil, Jacob s'installe à Migdal-Eder. Alors il s'installe un peu moins cette fois-ci, comme s'il y avait quelque chose il installe sa tente à cet endroit-là. Il n'achète pas une parcelle de terrain. On voit que peut-être il s'installe, mais pas trop trop. Il essaye de faire quelque chose qui est un peu hybride, qui peut peut-être passer. La conséquence immédiate que l'on a dans le texte. Alors c'est la suite, ce n'est pas une conséquence directe. Vous allez dire, ça n'a rien à voir, c'est Ruben qui prend sa responsabilité. Mais quand même, dans le texte, ça suit tout de suite. On a l'adultère de Ruben. Alors même, on ne peut pas transiger avec ce que Dieu nous demande. Quand on a compris que Dieu voulait qu'on aille à un endroit ou qu'on fasse ci ou ça, alors on le fait pleinement. On ne le fait pas à moitié. On ne le fait pas non plus. Oui, je vais le faire, mais je vais quand même m'arranger pour que ça soit plus confortable pour moi, parce que ça, tel quel, c'était un peu dur, donc je vais quand même m'arranger quelques conforts. Non, on fait les choses complètement. Alors, maintenant, on va regarder les relations entre Jacob et son frère. Il semble que Jacob et son frère puissent jamais se réconcilier avec ce qui a été fait. Souvenez de. Donc, il lui a piqué le droit d'aînesse, hein. Il a usurpé son identité. Et là, il s'est enfui pendant plein d'années, il s'enfuit, et là, il revient. Au passage, on ne voit pas beaucoup de choses mentionnées là-dessus, mais parce que Jacob ne résiste pas à l'ordre de Dieu de revenir. Il négocie pas en disant, mais tu te rends compte? Je vais revenir voir Ésaü, ça va être catastrophique. Et pourtant, tout le long, il a peur. Tout le long, il se dit, mais ça ne va pas être possible. Il va me tuer. Et il va prendre tout ce qu'il voit comme étant des éléments qui vont abonder dans son sens. Tout ce que va faire Ésaü, ça va venir alimenter sa peur d'être tué. Y compris quand Dieu se révèle, donc au début du chapitre 32, en lui montrant les anges. C'est déjà, pour lui, c'est un avertissement. Ça va mal se passer. Ça va absolument mal se passer, c'est sûr. Tout va mal se passer. Et là, on voit l'ambiguïté de Jacob tout le long, hein, tout le long de sa vie, cette ambigu. Il n'a pas négocié avec Dieu pour pas y aller. Et en même temps, il a une trouille monstre, il est persuadé que ça va mal se passer. Autrement dit, il est persuadé que Dieu l'envoie au casse-pipe. C'est quand même bizarre, ça. Mais il négocie pas quand même avec Dieu. Donc cette ambiguïté, c'est sûr que Dieu m'envoie dans un truc, une rencontre qui va mal se passer, et pourtant, il négocie pas. Il ne dit pas à Dieu, mais c'est pas possible. Hein. Premier, il a peur, il angoisse Jacob. Et alors, comme il angoisse et qu'il a peur, eh ben, il imagine comment il peut amadouer les choses. Et donc, ben, il va offrir des choses à Ésaü, il va lui donner plein de biens. Plein de choses. Donc je vais essayer que ça se passe bien quand même. Hein. Et Jacob, malgré le fait que les anges le rencontrent, c'est-à-dire qu'il a vu la puissance de Dieu autour de lui, il ne croit pas à la puissance de Dieu. Deuxième étape, parce qu'il ne croit pas à la puissance de Dieu, Dieu vient le rencontrer. Il vient le rencontrer, il vient lui montrer sa force. Et il vient le tirer. Il le laisse quand le jour se lève. Voilà, symboliquement aussi, il le laisse quand la lumière est enfin faite sur les agissements et sur qui il est vraiment. Il est le vainqueur de Dieu. Et d'ailleurs, Jacob le dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée. Délivrée de quoi? Délivrée de ses angoisses, a priori. Délivrée de sa peur de sa culpabilité, de son remords. Parce que c'est avec ça qu'il revient voir Ésaü, hein, c'est avec le fait qu'il sait très bien ce qu'il a fait dans le passé pour usurper son droit d'aînesse. Donc il revient avec ça, il est libéré, il est délivré. Et pourtant, malgré également l'attitude de Ésaü, au chapitre 33, on voit Ésaü qui manifeste une affection énorme. Il montre que son pardon, Ésaü. Ésaü le prend dans les bras. Vous vous souvenez, dans le texte, il se prosterne 7 fois en s'approchant d'Ésaü. Pourquoi il se prosterne devant Ésaü? Il vient de lutter avec Dieu, il est vainqueur de Dieu. Et son frère, il met genoux en terre devant son frère. Il ne croit pas possible le pardon. Il ne croit pas que Ésaü puisse le pardonner. Mais parce que lui ne se pardonne pas non plus. Lui n'accepte pas le pardon non plus pour lui. Lui, il ne s'est toujours pas pardonné. Il arrive devant Ésaü avec cette culpabilité encore. Il ne s'est pas pardonné. Et il ne croit pas que les autres puissent pardonner. Alors on a Ésaü même qui va proposer sa protection. Et Jacob se méfie. Il décline. Jacob ne croit pas à la transformation d'Ésaü. Non seulement ça, et la transformation d'Ésaü, elle n'est pas très claire dans la parole, il ne nous a rien dit là-dessus. On ne voit pas Ésaü suivre l'Éternel spécialement. Mais il y a aussi ça, c'est qu'il doute de son statut de vainqueur. Il doute complètement. Sinon, il aurait suivi Ésaü. Et puis, de toute façon, Dieu sera avec moi. Mais je pouvais le suivre. Et il invente encore une excuse. Ce Jacob est toujours en train de manipuler, de trouver une façon de ne pas faire exactement ce que Dieu veut. Il trouve encore quelque chose, il y a une excuse. Alors l'excuse, c'est qu'il y a des enfants, effectivement, il y a des enfants en bas âge. Il y a des bêtes qui allaitent, donc il faut pas aller vite, il faut aller doucement. Et puis entre-temps, il va s'arrêter. Hein. C'est-à-dire qu'il va pas suivre uniquement à distance, il va s'arrêter. Est-ce que nous sommes capables, dans nos relations, hein, de croire que les uns et les autres, nous pouvons changer, que nous pouvons pardonner, que nous pouvons être pardonnés dans nos relations? Est-ce que nous pouvons croire ça? C'est difficile, hein? Mais là, il a quand même des preuves tangibles, quand même. Hein. Mais même avec ça, Jacob le refuse. Nous pouvons croire que, grâce à Dieu, nos relations parfois compliquées, que ce soit là on parle de la famille, mais aussi dans le monde du travail, peuvent être dénouées par Dieu. Cherchons toujours la puissance de Dieu qui passe outre et qui trouve des moyens d'instaurer des relations qui sont aimantes. C'est souvent la solution, et parfois compliquée, difficile, douloureuse. Mais ça marche à condition que les deux le veuillent. Et là, dans l'histoire, on en a un qui le veut, l'autre qui le veut pas. Donc ça avance pas. Simplement, soyons confiants que Dieu est là dans nos relations aussi. Je serai avec toi. Un mot sur les relations père-fils. Puisqu'on a quand même deux moments un peu spéciaux. Et je vais citer Proverbe 1:8. Écoute, mon fils, l'instruction d'un père, de ton père, et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Et en Proverbe 3:12, on lit: car celui que l'Éternel aime, il le discipline comme un père le fils auquel il prend plaisir. Et je prends le cas du massacre de Sichem. Donc au chapitre 34, verset 30, à la fin de cette terrible attaque, Jacob voit ses fils et leur dit: « Vous m'avez troublé en me mettant en mauvaise odeur auprès des habitants du pays. » Étonnant comme réaction. Hein. Ils ont trucidé la moitié du pays, tous les mâles, pour défendre l'honneur de leur sœur. Ok. La réaction du père, c'est: vous m'avez troublé parce que maintenant je suis en danger. Maintenant, je suis pas bien là. Ils vont me chercher pour me tuer. Quelle est la réaction du père vis-à-vis de ses fils? Quelle est l'instruction qu'il leur donne? Quel est le message qu'il leur fait passer? Quel est l'apprentissage, la leçon qu'il va essayer de leur faire passer? On ne sait pas exactement, et très étonnamment, dans l'ensemble de la vie de Jacob, il y a plein de choses qui ne vont pas, et Dieu le bénit et le considère comme un grand. Et on va le voir à la fin de sa vie, mais dans sa vie, il y a plein de choses quand même. Dieu, il choisit des gens qui ne sont pas géniaux quand même, hein, pour le servir et pour en faire des grands. Il ne choisit pas les gens qui sont les meilleurs de la terre, manifestement. Hein. Et ce père, qu'est-ce qu'il fait avec ses fils? Il leur dit: vous m'avez mis en danger. Aucun mot sur le mensonge qu'ils ont raconté, sur la fourberie, en utilisant au passage un signe que Dieu avait donné. Voilà, c'est juste. En plus, si on transcrit un peu, c'est une instruction spirituelle qu'ils ont utilisée. Voilà. Donc, ils ont utilisé la circoncision comme étant un signe qui avait été donné spécialement, comme un signe de consécration. Ils l'utilisent en fausseté vis-à-vis de ce peuple, en racontant n'importe quoi, qu'ils pourront faire alliance et qu'ils deviendront le peuple en quelque sorte. Vu comme ça, c'est hyper grave, c'est pas bénin quand même. Et en plus, ils racontent des histoires et ils vont les trucider une fois qu'ils sont en faiblesse. On verra dans la temporalité, parce que c'est important, mais là, ce sont des jeunes gens, hein. Là, ce sont des jeunes gens. C'est ces deux frères qui ont, allez, entre 20 et 25 ans, on va dire. Donc, c'est pas non plus des. Ils sont effectivement adultes, et le père est vis-à-vis de fils adultes, mais rien. Et la justification que les fils donnent au verset 31 de ce chapitre, elle est-elle? Et ils dirent: traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Autrement dit, tu nous reproches ça, père, tu nous reproches ça. Mais t'as rien fait et tu laisses maltraiter notre sœur. Rien sur l'aspect spirituel, rien sur le mensonge, rien sur la fourberie, rien sur la tuerie au passage. Même si dans l'Ancien Testament on a un rapport à l'assassinat qui est un peu très différent, quand même très loin, très éloigné de ce qu'on a maintenant. Mais quand même, rien là-dessus. C'est juste l'honneur de notre sœur et tu n'as rien fait. Il y a même un renversement du respect, aucun respect pour Jacob, et lui reprocher, lui, de n'avoir pas bougé et d'avoir laissé déshonorer leur sœur. Autre point, l'histoire de l'adultère de Ruben. Je suis scié par ce verset, je n'avais jamais fait attention. Donc quand on lit les versets 21 et 22, du chapitre 35, et Israël partit et dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Et il arriva, pendant qu'Israël demeurait dans ce pays-là, que Ruben alla et coucha avec Bilha, concubine de son père, et Israël la prit. Point. Rien. Et nous, on a envie de dire: et quoi? Et on dit quoi là? Mais rien. Alors, est-ce que la parole est muette sur ce qui a été dit? Possible. Mais vu l'abondance des détails qui nous a raconté avant, et le flot de pensées et de ce qu'a fait Jacob, qui nous est détaillé par le menu pour se mettre Ésaü dans la poche, hein, on va le dire comme ça, là, rien. Peut-être qu'il veut dire: ben, c'est pas bien. Juste quelque chose. Dans les Proverbes, on a dit ne pas mépriser l'instruction de son père, du père. Mais pour ne pas être méprisée, il faut qu'elle existe. l'instruction du Père. Et donc, à nous, Père, de Père ou Mère d'ailleurs, puisque les proverbes mettent quasiment les deux sur le plan d'égalité, hein, instruction Père et Mère, de ne pas être démissionnaire. Avertir tout en aimant. Avertir car on aime. Parce qu'on aime. C'est ce que dit les proverbes. Comme un fils, comme un père reprend son fils, dans lequel il a le plaisir. C'est parce qu'on aime qu'on va reprendre. Avec amour, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut claquer à tour de bras, c'est pas ça que je dis. Mais il faut dire les choses. Parfois c'est compliqué de dire des choses. Mais notre responsabilité de parent, c'est de dire. Et je redis, une instruction, elle peut être respectée que si elle existe. Si elle n'existe pas, elle n'a ni à être méprisée, ni à être acceptée, il n'y en a pas. Et s'il n'y a pas d'instruction, on fait ce qu'on veut. Ok. On va un petit mot sur une remarque sur la temporalité de ce texte. Parce que j'ai dit tout à l'heure, les fils avaient autour de 25 ans, et il y a une chose qui m'a un peu étonné, c'est le dernier paragraphe de ce texte, qui clôture un peu ce grand ensemble, et qui est la mort d'Isaac. Alors je vous propose un peu de remettre un peu les choses dans le temps. On a, si je considère le temps zéro, le commandement de Isaac à Jacob de prendre une femme à Padan Aram. Donc hein, c'est donc début du chapitre 28 de la Genèse, hein, qu'on a vu les fois précédentes. Si on prend ce temps zéro, on a l'arrivée de Jacob chez Laban, on va dire entre environ à 1 à 2 ans, on va dire, 1 an de, à peu près. On est quand même au nord d'Israël, hein, on est sur le nord de la Mésopotamie, et donc probablement on va considérer qu'il y a au moins 1 année, peut-être 2 ans, pour que Jacob aille jusque-là. Il part de chez Laban, 20 ans après y être arrivé, hein, c'est ce qu'il dit en Genèse 31, verset 41, « Et ces 20 années que je t'ai servi, 14 pour les femmes et 6 ans de plus. » Donc il y a 20 ans de présence chez Laban. On est à donc, allez, peut-être 21, 22 ans du départ de chez Isaac. Et puis on a l'adultère de Ruben avec Bila qui est un peu documenté dans la tradition juive. Et dans la tradition juive, Ruben a 30 ans lors de cet adultère-là. Ce n'est pas un texte qu'on a dans la parole, mais c'est voilà, cette tradition juive estime donc. Donc là, on est à 38 ans environ. Pourquoi 38 ans plus 38 ans plus le temps de déplacement. Pourquoi? Parce que c'est l'aîné de Léa qui a été marié avec Jacob 7 ans après son arrivée chez Laban. Hein, 9 mois de grossesse, en gros, au mieux, et on est à peu près à 38 ans. Et supérieur à 38 ans, puisque c'est le texte qui suit après, Jacob vint vers Isaac, son père, à Mamré, qui est à Hébron, et les jours d'Isaac furent 100, Isaac avait séjourné, pardon, et verset 28, les jours d'Isaac furent 180 ans, et Isaac expira et mourut et fut recueilli vers ses pères. Et Jacob et Ésaü l'enterrent. Donc on est environ à une quarantaine d'années. On est presque exactement à 40 ans entre le moment où Laban est parti après sa forfaiture là et le moment où il enterre Isaac. On l'a déjà dit une fois là dans la Genèse, on a des temps qui sont donnés avec des âges et des durées qui sont peut-être réels, mais qui sont peut-être aussi souvent symboliques. Parce que, Joël le présentait, mais on a si on fait vraiment les suites de temps de certains âges, en fait on a des chevauchements qui ne marchent pas bien par rapport à ce qu'on voit. Et j'ai été attiré ça parce que ça veut dire qu'on a 40 ans d'écart, et souvenez-vous, Jacob est parti chez Laban, il est parti parce que Isaac était vieux, n'y voyait plus, et donnait sa bénédiction à ses fils avant de mourir. Or là, on a 40 ans d'écart quand même. C'est pour ça que dans la temporalité de ce texte, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Juste, comme par hasard, avec un grand B, on a une période d'une quarantaine d'années. Cette période de quarantaine d'années, elle nous parle de l'expérience. Elle nous parle de ce que Jacob a dû expérimenter pour être capable, après d'être parti, d'avoir volé son 3 dénesses, de revenir fort de son expérience avec Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin de ce chapitre? Alors, Ésaü et Jacob enterrent ensemble leur père. Et ensemble, ils ont renoué quelque chose autour du départ de leur père. Mais il a fallu 40 ans. 40 ans où Jacob s'est fait avoir par Laban, a fait diverses choses, a eu du mal à revenir vers Ésaü et comprendre qu'il était Israël. Et là, maintenant, il prend la suite de son père en tant que patriarche. Il est Israël pleinement. Un temps d'expérience. Peut-être pas réellement 40 ans dans la parole. Peu importe. C'est pas très important. Ce texte-là, il vient à clôturer toute cette expérience de retour de Jacob vers son père. Puis je finirai avec une petite pensée un peu en rapport avec cette semaine. Ce texte où Isaac fut recueilli vers ses pères, vers ses peuples, pardon, âgé et rassasié de jours. Il est recueilli vers ses peuples, comme si on avait une annonce d'une grande réunion. C'est l'annonce d'une grande réunion. Et nous savons qu'il va y avoir cette grande réunion. Et que ceux qui sont partis, on les verra, et on se retrouvera avec eux. Alors on a cette annonce qui est pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est ressuscité avant nous, Christ. Et je trouve cette application au seuil de la semaine que nous allons vivre, de Pâques, où on va voilà, se souvenir du don parfait de Christ. Mais surtout, on aura à la fin de cette semaine la possibilité de nous réjouir et de nous voilà, d'être emportés par la joie et la bonne nouvelle de cette résurrection, qui sera pour tous ceux qui auront mis leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ.